à l'écoute de l'invisible, un témoignage d'hommes et de femmes habités par la prière, une émission proposée par Yann Bachelet.
Sœur Marie du Sacré-Cœur, bonjour.
Bonjour Yann.
Vous êtes où ? On est où ici ?
Alors ici, c'est le monastère des Clarisses de Lourdes. Donc comme son nom l'indique, nous sommes des Clarisses donc, de l'ordre de Sainte-Claire. Voilà.
D'accord. Alors qu'est-ce qui différencie les Clarisses des Bénédictines ou d'autres ordres ?
Nous sommes de la famille spirituelle de Sainte-Claire et de Saint-François. Alors en fait, chaque ordre a un charisme, sans parler de l'histoire des fondations, des périodes, des dates. Chaque ordre a un charisme. Par exemple, vous évoquiez les Bénédictins, eux, ils vont plutôt mettre l'accent sur la liturgie. Donc ça va être des offices, parfois en grégorien, le chant des psaumes, ils vont vraiment en être pénétrés et s'appliquer du mieux que possible dans la liturgie. Alors ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas s'appliquer, mais nous, notre charisme, on met plutôt l'accent sur la pauvreté et la fraternité. Oui.
D'accord. On va parler de la prière alors.
Oui.
Dans votre monastère, comment s'organise la prière ?
Pardon ?
Dans votre monastère, comment s'organise la prière de la journée ?
Oui, alors comme beaucoup d'ordres contemplatifs, on a l'office divin. Donc ça, c'est la prière de toute l'Église. On prie, on chante les psaumes, on se réunit plusieurs fois par jour pour chanter les psaumes ensemble.
Oui.
Il n'y a pas que des psaumes d'ailleurs, il y a une petite partie d'intercession, il y a un autre père pour l'office des laudes et des vêpres, et enfin voilà quoi.
Oui.
Et on chante les psaumes et au nom de toute l'Église.
C'est ça.
On s'approprie vraiment les sentiments du psalmiste. Alors, parfois la louange, l'action de grâce, la supplication,
D'accord.
Oui.
Ce sont, entre guillemets, des techniques. Comment on peut définir ça ? Comment on peut parler de ça ? La supplication, par exemple.
Alors, je cherche un psaume qui me vient à l'esprit pour la supplication. Mais j'en ai pas un là maintenant tout de suite qui me vient en tête,
d'accord.
Mais on se tourne vers Dieu, on lui demande son aide. On le fait au nom de toute l'Église, vraiment.
D'accord. Ma sœur, qui c'est qui vous a appris à prier, si on apprend à prier ? Vous vous rappelez, dans votre enfance ou...
Oui, alors je dirais qu'en fait, la prière, c'est d'abord un cœur à cœur avec le bon Dieu, un dialogue amoureux. Et je dirais qu'il n'y a pas de manière bonne et de manière mauvaise de prier. Bien sûr, on peut demander des bonnes choses au bon Dieu et on peut lui en demander des mauvaises.
Hein.
Je veux dire, des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Par exemple, si je prie le Seigneur en disant « j'aimerais le dernier modèle de voiture », ce n'est pas essentiel.
Non.
Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Par contre, si je prie le Seigneur pour lui demander la paix dans le monde ou des choses... ou même la conversion des pécheurs, ou là c'est, on touche à l'essentiel, donc c'est vraiment un dialogue.
C'est ça, un dialogue. Alors il répond.
Il répond.
Comment il répond ?
Alors le bon Dieu répond comme il veut, à la manière qu'il veut.
C'est ça.
On ne maîtrise pas. Ça peut être les grandes consolations spirituelles, ça peut être la grande sécheresse et le silence, ce qui ne veut pas dire absence de Dieu. Et du coup, c'est lui vraiment qui mène la barque. Nous, notre devoir de chrétien, c'est d'intercéder pour toute l'Église, surtout quand on est religieuse. Donc, on prend à cœur vraiment notre mission de prier pour le monde. Mais après, le bon Dieu, il est souverain maître et dispensateur des grâces, à tel point que... On peut, par exemple, prier pour le salut d'une âme qui est décédée. Mais lui, si par exemple, cette âme, elle est déjà sauvée, ou s'il juge qu'une autre âme en a le plus besoin, il peut très bien faire profiter notre prière à une autre âme.
Et comment on sent ça Comment vous ressentez ça ? C'est une intuition ?
En fait,
ça se travaille, ça se pratique souvent. Comment on sent cette intuition ?
Le résultat ne nous appartient pas.
D'accord.
Donc,
mais vous savez que ce n'est pas la même la même âme que vous priez, enfin, que vous aidez ou...
Non, pas forcément. Nous, on prie, ah, oui. Par exemple, pour le salut de telle personne. Mais après, on n'est pas là pour voir. On n'a pas la preuve palpable, matérielle, de savoir. Sauf révélation spéciale, il y a quelques mystiques qui... Mais en tout cas, ce genre de grâces ne sont pas à demander. On n'a pas à les rechercher, non. Parce qu'on peut être trompé aussi dans des illusions du démon. Ou... Oui. On n'a pas à aller rechercher les grâces... Mais le bon Dieu peut les donner gratuitement, il peut faire profiter comme il l'entend, qui il l'entend.
Oui. Et ces moments d'aridité, comment on les vit? Vous en avez parlé tout à l'heure. Comment on vit ces moments d'aridité? Qu'est-ce qu'on fait de plus?
Alors ça peut être par exemple, souvent c'est quand on commence dans la vie spirituelle. On se sent vraiment porté et poussé à la prière parce qu'on est quand même petit enfant, oui, qui a besoin d'être nourri du lait de sa mère.
Okay.
Donc le bon Dieu, pour nous encourager à persévérer à sa suite, il va nous, tout va nous paraître facile, léger. Il va vraiment nous faire ressentir sensiblement sa présence. Et puis, pour une raison ou une autre que nous, on ne sait pas forcément... Ou bien, justement, une âme qui aurait tendance à désirer plus les consolateurs que le divin consolateur lui-même, donc rechercher les consolations de Dieu plutôt que Dieu lui-même, alors il va la faire passer par une période où, justement, il ne se fait plus sentir. Donc, elle va souffrir de désirer Dieu tout en pensant ne pas sentir sa présence alors qu'il est là, mais il se voile, comme pour ainsi dire. Et comme ça, bah, elle va apprendre
à désirer plus,
à ne pas chercher Dieu pour la consolation sensible, qui est secondaire, mais pour lui-même. Je dirais que c'est comme dans... Si je prends le parallèle avec le mariage, l'homme doit aimer la femme pour elle-même, et pas forcément en vue du plaisir que la présence de la femme lui procure. C'est ça, la chasteté dans l'amour conjugal. La femme doit aimer l'homme pour lui-même et non pour ce qu'il peut lui apporter. Et je dirais que nous, on doit aimer Dieu pour Dieu, vouloir servir Dieu, l'honorer. Alors c'est vraiment le but de notre vie chrétienne, louer, honorer, servir Dieu et par là même sauver son âme. Je crois que c'est Saint Ignace qui le dit, mais je ne suis pas sûre. Alors.
D'accord. Comment on le sent, ça, qu'on est vraiment dans ce rapport où on aime Dieu, pour le servir, plutôt que pour les grâces? Comment ça vient, cette clairvoyance?
Alors je dirais, bon, on fait notre examen de conscience, notre relecture de la journée, le soir avant de dormir, on se dit bah, comment est-ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai été charitable envers mon prochain, ça aussi c'est un signe que on cherche le Seigneur, ou bien est-ce que là j'ai pas assuré. On relie aussi notre vie de prière. Est-ce que je me suis laissé aller à des distractions pendant la prière? Parce qu'on a des temps d'oraison en silence. Et du coup, parfois, on peut avoir une idée qui n'a rien à voir avec la prière qui nous passe par l'esprit. Est-ce que on suit le cours de nos pensées et finalement, les pensées, c'est un peu comme la folle du logis, quoi. Ça nous entraîne de pensée en pensée, on rêvasse et on prie pas. Ou bien est-ce qu'au contraire, dès qu'une pensée de distraction nous prend, on se ressaisit pour revenir à la prière?
Quelle est l'importance du texte dans ces moments-là de distraction, du texte de la Bible pendant la prière, de la lecture?
Alors justement, ça nous aide à nous recentrer sur le Christ, de prier avec alors des méditations. Hein. Il n'y a pas forcément que la Bible, il peut y avoir les méditations de Louis Dupont ou du Père Amon. Des méditations, ça nous aide à justement y revenir sans cesse. Ça nous guide.
La lecture est une sorte de technique, entre guillemets, pour ne pas se disperser, pour trouver de l'unité dans la prière.
C'est un fil conducteur.
Voilà, un fil conducteur.
Il y a des très bonnes méditations qui, justement, collent avec le temps liturgique.
Pardon, d'accord.
Il y a aussi, par exemple, je ne sais plus si c'est le don Guéranger, qui suit l'année liturgique, et tout en suivant les textes de l'année liturgique, il va inclure des explications ou des passages qui aident justement à prier avec le déroulement de la liturgie.
Qu'en est-il de cette union avec Dieu ? Est-ce qu'on peut tenter une description ?
Moi, personnellement, je ne me sens pas trop à la hauteur, mais il y a des grands mystiques et des grandes saintes ou saints qui l'ont très bien fait. Alors, pour ce domaine-là, on recommande surtout Sainte Thérèse d'Avila, même dans le château intérieur de l'âme, dans son autobiographie. Elle décrit bien tous ces passages de l'horizon. Saint Jean de la Croix, alors je suis un petit peu frustrée de vous citer des saints de la famille carmélitaine alors que je suis Clarisse, mais en tout cas, c'est eux qui ont vraiment le plus creusé ces différents aspects. Oui.
Alors... pour la lecture du chapelet, qui est une autre forme de prière, quelle est la vertu de la répétition ? Pourquoi on répète ? Je fais le naïf là. Pourquoi on répète 10 fois ?
Alors je ris parce que pour moi c'est très aride. J'ai du mal justement avec le chapelet à cause de cet aspect de la répétition.
Oui.
Je serais davantage dans ma prière personnelle à parler à la Vierge Marie, à lui recommander telle ou telle personne qui se recommande à la prière, à la supplier pour telle ou telle chose.
Oui, c'est pas du tout.
Mais en même temps, je dirais que le chapelet, c'est comme un enfant qui dit « je t'aime ». À sa maman du ciel. On a des parents sur la terre. On les aime. Ils nous ont donné la vie, ils nous ont éduqués, on les aime. Mais je dirais que on devrait encore plus, et c'est difficile, parce qu'on aime beaucoup nos parents, mais on devrait encore plus aimer la Vierge Marie et le bon Dieu, qui nous ont donné la vie de la grâce, la vie éternelle, et qui sont vraiment nos créateurs. Enfin, le bon Dieu, c'est notre créateur.
Oui, d'accord.
Donc... On doit avoir les mêmes sentiments et donc répéter ces Ave Maria à la Bienheureuse Vierge Marie, c'est une salutation et le prier de tout notre cœur.
Et est-ce qu'à Lourdes, on se sent plus proche de la Vierge Marie, comme on vous dit de... Excusez-moi, non Oui
Je dirais que ça dépend de la ferveur qu'on met dans la prière. Il y a beaucoup d'endroits où elle est priée avec ferveur.
C'est sûr.
Pas forcément même sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes, mais...
C'est ça.
Oui. Oui.
C'est ça. Donc la prière, c'est l'écoute.
Oui, oui, oui.
L'écoute de soi, l'écoute de Dieu, l'écoute de soi aussi.
Oui, oui, oui. Tout à l'heure, vous citiez les bénédictins. Et justement, un des maîtres mots, je crois, il me semble, de la règle de vie bénédictine, c'est de dire « Écoute, mon fils, incline l'oreille de ton cœur ».
Oui.
J'aime beaucoup ce début-là, ce commencement de la règle. « Incline l'oreille de ton cœur ».
C'est ça.
Oui.
Bon, écoutez, ma sœur, je vous remercie beaucoup. Et merci, au plaisir de se revoir.
Au plaisir de se revoir, oui. Au revoir.
Au revoir.